Au micro de Radio PFM, Paul Masson. Paul, salut.
Salut.
On rappelle que tu es formateur d'adultes à la retraite, militant de l'éducation populaire. Et à cette antenne, il y a quelques semaines, tu as déjà proposé une série d'émissions pour comprendre et débattre sur le thème des retraites. Et avant de parler du projet présenté par Elisabeth Borne, est-ce que tu peux rappeler un peu toi ton analyse et ta lecture, ta thèse dans les précédentes émissions, Paul, rapidement?
En gros, les retraites par répartition, c'est le fruit d'un contrat social d'après-guerre qui se disait, pour réunifier la nation, il y a nécessité qu'on ait une protection sociale collective garantie par l'État. C'est la sécurité sociale, c'est la retraite, tout ça. Il y a nécessité que les services publics fonctionnent sur l'ensemble du territoire et que tout citoyen puisse avoir droit aux mêmes choses, aux mêmes services. Et pour ça, il y a nécessité que l'État planifie, c'est-à-dire projette et dise voilà où on veut aller. Et il y a nécessité que l'État se donne les moyens. C'était la nationalisation des banques, la nationalisation de l'énergie. Donc c'était ça. Ce compromis a été remis en cause avec la réorganisation du capitalisme dans les années 80. Cette réorganisation, ce qui la caractérise, c'est qu'elle va avoir pour but, c'est d'une part un désengagement de l'État. Ça doit être le marché qui doit réguler tout. Et le marché doit récupérer l'argent de la protection sociale qui était gérée collectivement. Et la finalité de cette réforme, c'était de permettre aux propriétaires du capital, aux actionnaires, d'augmenter leurs profits. Deuxième temps que j'ai développé, c'est de faire voir que la réforme Macron, ce n'était pas une réforme en soi. Il y avait une réforme qui avait commencé en 1997 sous Balladur, qui s'est fait en différentes étapes, on en est à la sixième, qui correspondent à cette finalité-là. Et autre élément qui pose problème à la démocratie, c'est que très majoritairement, la population française était d'accord avec le contrat de 1945. D'où les difficultés pour les gouvernants de faire passer la volonté du capitalisme qui se réorganise. Et pour ça, le gouvernement doit avancer masqué.
Alors, on rappelle aux auditeurs, aux auditrices qui peuvent réécouter cette série d'émissions qui est en ligne et en libre écoute sur notre site radiopfm.com. Alors, donc je le disais, le projet de réforme a été, le nouveau projet de réforme a été présenté mardi par Elisabeth Borne. En quoi est-ce que ça illustre ton propos, ton analyse, et peut-être aussi en quoi ça diffère? Est-ce qu'il y a des surprises finalement, Paul, dans ce projet de réforme?
Alors en quoi ça illustre mon analyse? Qu'est-ce qu'est la réforme? Il y a deux éléments clés. C'est le droit à la retraite qui change, puisque pour avoir droit à la retraite, on doit avoir 64 ans au lieu de 62 ans. Deuxième chose, c'est que pour pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein, je dois avoir cotisé 43 ans, quand avant je cotisais 42 ans. C'est-à-dire que les deux réformes sanctionnent les salariés.
Et seulement les salariés.
Et seulement les salariés. Si on regarde en 30 ans, comme on voit bien qu'il n'y a qu'une seule réforme, c'est que toutes ont permis de diminuer le revenu des salariés. En 1993, je devais cotiser 37 ans et demi pour disposer d'une retraite. Maintenant, je dois cotiser 43 ans. C'est-à-dire, je dois travailler 5 ans et demi de plus en 30 ans. Deuxièmement, le montant de ma retraite en 1993, il était calculé sur les 10 meilleures années de ma carrière. C'était les 10 meilleures. Et maintenant, la réforme prévoit, il sera calculé sur la totalité des 43 ans de travail. C'est-à-dire que cette mesure-là fait que toutes les retraites vont diminuer. Dernier point, le report de l'âge légal à la retraite. En 1993, on avait le droit à la retraite à 60 ans. Maintenant, on aura droit à la retraite à 64 ans. C'est-à-dire, on va devoir travailler 4 ans de plus pour obtenir l'âge légal. Ces différentes mesures, ça correspond à la volonté politique du capitalisme néolibéral. Casser les piliers du contrat social.
Dans une des séquences qu'on a enregistrées ensemble, tu parlais des différents acteurs économiques qui créent de la richesse et de la valeur. Là, seuls les salariés sont mis à contribution dans cette réforme. Quid des banques, quid du patronat, quid des actionnaires et de l'État?
Alors, cette réforme, on voit bien que ça va être les salariés qui vont les payer. Un des cinq acteurs. L'État, par rapport à la retraite, dispose d'un budget. Et la réforme dit, l'État n'augmentera pas les impôts. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de contribution qui pourrait venir de l'État si, une année ou l'autre, les dépenses dépassaient les recettes. Donc l'État ne s'engage pas. Ce qui nous a été présenté dit, les entreprises ne seront pas pénalisées. Si elles sont amenées à donner quelque chose, ça sera compensé. Et les entreprises qui ne sont pas concernées, elles décident dans leur conseil d'administration la part qu'elles donnent aux actionnaires, le salaire qu'elles donnent à leurs dirigeants et la part qui vient aux investissements et donc ce qu'elles demandent aux banques. Si les entreprises ne sont pas concernées, ne sont pas sanctionnées et qu'on ne demande rien aux actionnaires, on peut continuer de leur distribuer les mêmes revenus. L'entreprise a autant de revenus. Elle peut payer ses PDG au même taux. Et les emprunts qu'elle fera aux banques, elle continuera de les faire selon ses propres décisions. Il n'y a que les salariés qui sont concernés.
Tu nous as dit en quoi ce projet de réforme illustrait finalement ton analyse et en quoi elle diffère. Est-ce qu'il y a une surprise alors, Paul, dans ce projet de réforme? Comment tu vois les choses, toi?
Il n'y a aucune surprise. Les négociations ont été fixées dans un cadre. L'État a dit, voilà les deux choses sur lesquelles on ne touche pas. On ne touche pas au profit. Et l'État ne mettra rien dans la balance. On peut négocier de quelles vont être les catégories de salariés qui seront plus pénalisées et les catégories de salariés qui seront moins pénalisées. C'est ce qu'elle demandait à négocier avec les organisations syndicales. Ce n'est pas surprenant que venant avec un cadre pareil, toutes les organisations syndicales aient dit « Mais attendez, on nous demande, nous, de continuer de payer et tous les autres ne payent pas. » Ça explique bien la mobilisation des syndicats et leur unification.
Quand même, ce débat autour de ce projet, c'est aussi l'occasion de reparler de pénibilité au travail. Et puis, il y a des garde-fous, il y a l'histoire des 1200 euros pour toutes et tous. Hein. Là, on parle de la retraite à taux plein, 1200 euros pour toutes et tous.
Alors, effectivement, on va pouvoir parler, négocier, mais sans toucher à autre chose. Alors, les 1200 euros, c'est 1200 euros qui est présenté comme... Il n'y aura pas de retraite à moins de 1200 euros. C'est complètement faux. Que dit la réforme? Le minimum retraite sera de 1200 euros. Pour qui? Pour un homme ou une femme qui aura 64 ans et qui aura cotisé à temps plein pendant 43 ans. C'est-à-dire qu'il y a quantité de gens qui partiront en retraite avec infiniment moins de 1200 euros. C'est de la poudre aux yeux, les 1200 euros. Après, il y a des négociations catégorielles pour essayer de voir. On veut faire payer les salariés. Maintenant, quelle catégorie? On fera payer un peu moins. Quelle catégorie un peu plus? Et on ne veut pas payer les retraités, y compris les retraités qui ont 3 000, 4 000, voire plus de retraite. Ceux-ci, on ne les touche pas. Pourquoi?
Alors quand même, ce projet de réforme, il arrive à un moment, on peut dire un peu étonnant, parce que, bon, certes, c'est le deuxième et dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc il a moins de comptes à rendre, puisqu'il n'aura pas à se présenter à nouveau devant les électeurs. Mais à l'Assemblée nationale, le rapport de force est défavorable au parti du président. Comment tu vois les choses dans le contexte actuel?
Dans le contexte actuel, on peut dire qu'il y a deux camps qui s'unifient l'un contre l'autre. On a le camp favorable à la réforme des retraites. Alors on a Macron qui vient de la finance et dont un des premiers actes quand il est arrivé pour son premier mandat, ça a été de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. Il y a un enjeu économique, mais il y a un enjeu symbolique énorme. Il annonce la couleur. On va avoir, lui et son gouvernement, qui vont être soutenus par les Républicains. Ce n'est pas du tout surprenant, puisque les autres réformes ont été faites par les Républicains. La première réforme, c'est Balladur. La deuxième, c'est Juppé, qui a été mise en échec. Après, il y a eu la réforme Fillon. Après, il y a eu la réforme Sarko. Et après, on a eu la réforme Macron-Philippe, qui vient de la droite. Macron, d'une certaine manière, mais c'est un geste de plus, il baisse le masque. C'est plus ni droite ni gauche. Il est clairement celui qui va réunifier la droite et qui se présente comme le chef, qui va en devenir le chef. Donc, il y a cette unification politique. Après, qui c'est qu'on va trouver derrière? Eh bien, on va trouver qui soutient ce type de réforme, c'est le patronat, à la fois le MEDEF, à la fois la CGPME. Pourquoi? Les entreprises ne sont pas concernées. Ça se jouera tout entre les salariés. Donc, ils soutiennent ce type de réforme. Un autre qui soutient fort ça, c'est les sociétés d'assurance, les fonds de pension. Le directeur d'AXA, actuel, dit « il faut faire cette retraite, il y a des sous à gagner pour nous ». Voilà pour ce qui est du camp favorable à cette retraite. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les forces qui sont défavorables à cette retraite. Et alors là, les défavorables à cette retraite, on a d'une part les sondages qui disent 80% de la population est contre cette réforme des retraites qui retarde l'âge. Selon les sondages, ça passe entre 70 et 85%. J'ai mis 80, mais on dira non, il y a un sondage à 75. Oui, il y en a un à 85. Bon. De la même manière que Macron a réussi à unifier la droite autour de son projet de réforme, il a réussi à unifier les organisations syndicales. Il y avait des années qu'on n'avait pas eu tout le monde du travail, à travers toutes les organisations syndicales, qui étaient opposées à cette réforme. On va avoir aussi les forces de gauche, et c'est intéressant que toutes les composantes de la NUP sont opposées à cette réforme. On va rentrer dans une période de turbulence où on retrouve bien quelque chose de classe, une lutte de classe. Il y a les propriétaires du capital qui entendent continuer le développement qu'ils ont mis en place dans les années 80, et on va avoir le camp des travailleurs qui s'organise. Alors, comment ça va se jouer? On va suivre les événements.
Suite au prochain épisode, alors, Paul.
Suite au prochain épisode, on peut aussi retrouver toutes ces informations, en plus de la radio, par écrit et sous forme d'une vidéo sur mon site.